Aujourd'hui, grâce au développement de la psychologie cognitive et des neurosciences, vous savez, l'ensemble des disciplines qui étudient le système nerveux, comme la neurologie, la neuropsychologie, ou par exemple la neurolinguistique, ou la neurochimie, nous sommes une génération, vous dites, Selvine Alvarez, pivot. En effet, on ne peut pas faire fi de toutes ces découvertes sur le fonctionnement du cerveau. Comment penser l'éducation sur des bases scientifiques ? Selvine Alvarez, dans votre livre « Les lois naturelles de l'enfant » paru aux Arènes, vous souhaitez partager au plus grand nombre ces découvertes pour une approche vivante, enthousiaste et joyeuse de l'éducation. Je rappelle que vous avez à peu près 32-33 ans, que vous êtes chercheuse en pédagogie et que vous avez eu une classe expérimentale à Gennevilliers pendant 3 ans. Alors, quelles sont ces fameuses données théoriques fondamentales pour l'épanouissement de l'enfant, de l'apprentissage humain?
Alors déjà, ça commence par une excellente nouvelle, c'est que tous ces grands principes, toutes ces grandes lois, ce sont des choses que nous connaissons déjà dans nos cœurs, de parents, de grands-parents, d'enseignants, d'adultes et même d'enfants. On sait très bien, donc je ne vais faire que dire des choses finalement qu'on connaît déjà intuitivement, mais peut-être qu'on a oublié. Donc mon souhait, c'est de les faire remonter à la conscience pour qu'on puisse enfin se faire confiance et se dire « Ok, ce que je ressens est juste ». Bien que ça n'ait rien à voir avec ce qui se fait traditionnellement dans le système scolaire, eh bien, j'ai quand même raison. Voilà, donc c'était ça l'objectif de mon livre. Donc, quelles sont ces grandes lois ? Eh bien, la première, c'est que l'être humain, dans les premières années de sa vie, possède une intelligence plastique extraordinaire. C'est-à-dire que son cerveau va littéralement se câbler avec tout ce qu'il perçoit du monde extérieur. Le moindre événement va venir s'encoder dans ses neurones en créant des synapses, donc des connexions de neurones. Et ce câblage est vraiment très puissant dans les premières années de la vie, ce qui fait que nous devons, nous, aux côtés de l'enfant, avoir un comportement exemplaire dans le sens où il faut avoir conscience que tout ce que l'on répète quotidiennement, donc tout ce qui est répété et prolongé, s'encode, se fixe, s'imprime dans le cerveau de nos enfants par des connexions de neurones. Ce que nous voulons voir fleurir chez nos enfants, les comportements ou le langage, eh bien il faut d'abord nous l'imposer à nous-mêmes.
Dès tout petit. Parce que vous écrivez que déjà quand ils arrivent à l'école vers les 3 ans, il y a déjà beaucoup de choses qui ont déjà été acquises ou bien acquises ou mal acquises.
Oui, parce que dans les 2 premières années de la vie, il y a une période plastique très très forte où le cerveau est, se construit les fondations de ses capacités sensorielles et langagières. Déjà même dans la première année de vie, hein, je montre un petit graphique dans le livre, on voit que dès la première année de vie, la plasticité cérébrale commence déjà à diminuer sur ces zones-là du cerveau. Donc effectivement, dès la première année de vie, on est déjà en train de construire les fondations de l'intelligence humaine sur lesquelles l'intelligence va s'appuyer pour ensuite préciser les capacités acquises lors de cette première année. Ce qui ne veut pas dire qu'après la première année, si on n'a pas eu suffisamment d'interactions, un langage de qualité qui a nourri toute cette intelligence, que c'est fichu, pas du tout. L'intelligence est encore très plastique jusqu'à 5-6 ans, et même si cette période est fondamentale, la période des 2 premières années de vie, il est toujours temps derrière, en apportant beaucoup d'amour, beaucoup de stimulation intelligente, pas trop, il ne faut pas non plus surcharger les enfants, ça permet d'apporter au cerveau ce dont il a besoin pour se développer et se nourrir, quoi.
Mais si déjà, avant 3 ans, on ne cesse de lui dire « ne touche pas ça, assieds-toi, tais-toi », etc., c'est un petit peu comme si on fermait l'énergie de l'enfant, quoi. On l'a bloqué, non ?
Bah effectivement, parce que on l'empêche de se développer. Puisque dans cette période où, je le disais, le cerveau est très plastique, l'enfant est poussé par la nature à aller explorer le monde. Il a besoin d'aller chercher toutes ces informations sensorielles, à toucher, goûter, voir tout ce qui se passe autour de lui, que ce soit nous, nos comportements, l'herbe ou les fleurs ou la balle qui roule ou la voiture qui tombe par terre, la petite voiture qui tombe par terre. Il a besoin de toutes ces expériences pour câbler son cerveau et comprendre, grâce à un mécanisme qu'on appelle bayésien, pour comprendre les grandes lois du monde par l'expérience. Et donc quand on l'empêche de faire, quand on lui dit touche pas, reste là, bouge pas, touche pas à ça.
C'est sale.
C'est sale. On empêche son cerveau de se nourrir, en fait, psychiquement. Il y a quelque chose là, il faut vraiment que... On pense parfois que c'est pour sa propre sécurité, et ça l'est certainement, mais voyez-vous, on le sait tous, les enfants préfèrent braver nos interdictions pour essayer d'aller réaliser une expérience qui nous semble complètement anodine et pourtant elle leur semble si nécessaire. Et pourquoi tous les enfants font ce genre d'exploration en bravant nos interdictions? C'est parce que ça leur est nécessaire.
C'est pas pour nous embêter.
C'est pas pour nous embêter.
Pas pour nous défier.
Ce n'est pas pour nous défier. Même si ils peuvent rentrer dans la défiance, mais je crois qu'ils rentrent plutôt dans la défense quand ils se braquent contre nous, quand nous leur interdisons des choses où nous devrions sans doute nous mettre un peu plus en retrait. Et ça ne veut pas dire lâcher la surveillance, mais trouver un moyen de permettre à l'enfant de faire ses explorations dont il a besoin, tout en étant nous-mêmes rassurés, en le plaçant dans des conditions qui assurent sa sécurité.
La vie est un art. RCF.
Céline Alvarez, vous dites que les enfants doivent être motivés pour ce qu'ils feront, c'est-à-dire c'est eux qui choisissent un petit peu l'activité, bien sûr, que vous aurez préparée, mais qu'ils soient vraiment actifs. C'est pas une activité qu'on va leur imposer.
Exactement, exactement. Puisqu'aujourd'hui, on le sait, hein, on avait tous cette intuition-là, mais aujourd'hui, on sait qu'un organisme, hein, ça peut être un animal, mais l'être humain, c'est pareil, qui n'est pas motivé, qui n'a pas de curiosité pour l'activité qu'il est en train de réaliser, ne peut pas apprendre, ne peut pas mémoriser, puisque les zones de son cerveau qui sous-tendent ses capacités de mémoire ne s'activent pas ou très peu, très faiblement. Donc, on ne peut pas apprendre quelque chose qu'on n'aime pas. On ne peut pas retenir. Donc, il faut impérativement que les enfants puissent s'engager dans des tâches, dans des activités qui les motivent.
Donc, ce que vous allez susciter, c'est le goût d'apprendre.
Alors, il y a deux choses. Effectivement, il faut essayer d'éveiller leur curiosité sur des sujets peut-être qui ne les intéresseraient pas de fait. Mais je pense qu'il faut surtout voir le problème à l'envers. Je pense qu'il faut qu'on arrête de penser. Alors, bien sûr, je vois tout de suite venir les critiques. Bien sûr, il faut un socle commun avec des fondamentaux à acquérir pour tous. Oui, mais hormis ces fondamentaux qui s'acquièrent très très vite lorsqu'on suit les lois naturelles d'apprentissage de l'enfant, il faut permettre à l'enfant de pouvoir satisfaire et nourrir ses élans intérieurs, ses motivations intérieures, ses passions personnelles. Et pourquoi ? Parce que c'est ce qui va justement nourrir le plein épanouissement de sa personnalité et c'est là où il va se spécialiser et s'épanouir. C'est ce qui s'est passé dans la classe de Gennevilliers. Il y avait des enfants, je me souviens d'un petit garçon de 3 ans qui me dit à 3 ans, donc Céline, je veux lire. Et je trouvais que c'était tôt. Malgré le fait qu'il y avait déjà dans la classe des enfants de 4 ans qui lisaient, il voulait, lui, lire. Et donc, je me suis dit, non, c'est quand même trop tôt. Et donc, je l'ai laissé se débrouiller seul. Il a fini par aller chercher le matériel d'entrée dans la lecture lui-même. Et il le présentait à ses camarades plus âgés en disant, qu'est-ce que c'est le son de cette lettre? Qu'est-ce que c'est le son de celle-ci? Et au final, au bout de 3 semaines, il a appris à lire tout seul, avec l'aide des grands. Et jamais, jamais je n'aurais pu exiger d'un enfant de 3 ans qu'il apprenne à lire en 3 semaines. Jamais. Qui aurait pu exiger ça? Aucun manuel scolaire n'aurait pu faire ça. C'est sa motivation endogène. Et bien c'est pareil pour tout le reste. Il y a des enfants dans la classe qui sont mis à faire des opérations mathématiques, à 4 chiffres, des divisions, des multiplications, des additions. Certains, voilà, avec un niveau très poussé, on n'aurait pas pu leur demander ça. C'est parce qu'ils étaient motivés. Je me souviens aussi d'un petit garçon qui était passionné par les origamis et qui voulait apprendre à faire ses pliages de manière parfaite. Il avait 4 ans. Franchement, je me disais, il est très, très ambitieux quand même, quand il a pris un jour ce manuel d'origami et qu'il m'a dit, moi je vais tous les faire. Eh bien, ça lui a pris peut-être un mois, mais effectivement, à la fin du mois, il savait tous les faire parfaitement. Moi-même, n'arrivant pas à la 3 ou 4e page, parce que c'était un manuel avec une difficulté croissante, au bout de la 3 ou 4e page, je n'arrivais plus à faire les origami. Eh bien, il a réussi, parce qu'il était motivé et actif.
Et en même temps, vous écrivez dans votre livre qu'une petite fille qui aurait dû plus ou moins déjà apprendre les lettres, elle n'en était pas encore à ce stade-là, et que pendant un certain temps, vous l'avez laissé nettoyer les tables, arroser les plantes, parce qu'il fallait d'abord qu'elle puisse acquérir ce que vous appelez les fondamentaux. Comment vous appelez ça ?
Eh bien, c'est les compétences exécutives dont je parlais tout à l'heure. On sait que ce sont les fonctions cognitives qui nous permettent d'être opérationnels, qui nous permettent de mener nos projets à terme, de corriger nos erreurs, de revoir nos stratégies, d'être créatifs, de persévérer, etc. Et ces fonctions cognitives essentielles, socle de l'intelligence, se développent dès la naissance, mais avec une période de croissance très très forte entre 3 et 5 ans. Et donc il faut permettre aux enfants de développer ces compétences pour qu'ensuite ils puissent faire et apprendre tout ce qu'ils veulent. Et on voit bien les enfants qui n'ont pas pu être autonomes, les enfants à qui on n'a pas laissé la possibilité de s'habiller seuls, de participer aux tâches quotidiennes, lorsqu'on ne les a pas aidés à développer un langage, ça fait partie aussi ça, le développement du langage, des compétences, du bon développement des compétences exécutives. Bref, un enfant à qui que l'on n'a pas accompagné vers de plus en plus d'autonomie, à 3 ans, il peut avoir ses compétences exécutives sous-développées. Il ne retient pas bien les choses. La mémoire de travail est une compétence exécutive. Il ne retient pas bien les consignes.
Il ne se contrôle plus.
Il a fait preuve de peu d'autocontrôle. Donc, il ne se contrôle pas vraiment pas bien au niveau de ses émotions. Elles sont très, très fortes. Il peut facilement mordre un copain. Il a beaucoup de mal à corriger ses erreurs. Il se décourage vite. Et puis, il peut avoir des gestes très désordonnés, avoir beaucoup de difficultés, justement, être un peu pâteau, vous voyez ce que je veux dire, avec ses mains, il n'arrive pas très bien à s'en servir, ou même à marcher ou à utiliser son corps. J'ai vu des enfants comme ça. Et donc, ces enfants-là, avant même d'essayer de les aider à apprendre des lettres ou des chiffres, ils ne pourront pas les retenir, puisqu'ils n'ont pas les compétences fondamentales pour le faire, les compétences cognitives fondamentales. Donc avant de faire tout ça, il ne faut pas s'acharner, on va se fatiguer, et eux aussi, on va peut-être même les dégoûter de cet apprentissage. Il vaut mieux les laisser tranquilles, et au contraire, leur permettre d'être autonomes, de faire des activités, de mener des projets, et de les accompagner chaque fois plus loin pour que ces compétences socles se développent. Et qu'ensuite, à un moment donné, donc c'était le cas de cette petite fille qui, alors, elle avait déjà 4 ans et j'étais un peu inquiète parce que à 4 ans, avec le programme scolaire, elle aurait dû connaître les lettres, elle aurait dû connaître les chiffres. Et ce n'était pas le cas, elle ne les retenait pas. Et à un moment donné, moi j'ai quand même essayé, hein, puisque j'avais la pression de ce programme scolaire-là, donc j'aidais, je forçais un petit peu qu'elle retienne les chiffres et les lettres, et ça ne rentrait pas. Donc, à un moment donné, je n'ai pas pu faire autre chose, parce que je voyais bien que j'étais en train de la démotiver, de lâcher prise et de dire très bien. Eh bien, je vais faire confiance à la théorie, vraiment. Là, c'était une belle initiation qui m'était proposée. Faire vraiment confiance et de dire, ok, très bien, eh bien, je vais t'aider. Alors, tu vas faire toute la journée des tâches pratiques qui te motivent, et on les fera de plus en plus ambitieuses, de plus en plus grandes, pour que elle développe ses compétences. Et donc, effectivement, pendant 6 mois, et c'est long, 6 mois pour un enfant de 4 ans de moyenne section qui ne connaît pas ses lettres, moi, ça me faisait peur, elle a pu, pendant 6 longs mois, coudre, laver les vitres, laver les tables, faire la peinture, nettoyer tout le chevalet de peinture. Elle aidait beaucoup aussi les plus petits. Elle a appris à lasser. Voilà. Donc, elle a vraiment utilisé ses mains en lien avec son intelligence qui a permis de développer ses compétences exécutives. Et un beau jour, elle me dit, Céline, je veux lire. Et en 2 semaines, elle lisait. Et c'est une des petites filles qui, quand on a fait des tests cognitifs par la suite, avait les capacités en lecture les plus développées. Elle lisait à la fin de son année de grande section avec un niveau de lecture et de compréhension de lecture qui plafonnait aux meilleurs résultats de CE2.
Je vous invite, Céline, maintenant à écouter ensemble un extrait de votre vidéo qu'on retrouve donc sur votre site internet.
Les activités pratiques ont passionné les jeunes enfants. Avec ces activités, l'enfant manipule de vrais objets, esthétiques et cassables. Ils peuvent imiter les adultes à travers des situations réelles, qui captent et polarisent avec une grande puissance l'attention de l'enfant. Ces activités présentent par ailleurs des conditions d'exactitude et de contrôle, qui donnent envie aux enfants de recommencer, de s'auto-perfectionner. Ils développent alors rapidement une grande attention exécutive, qui se généralise à tous les domaines d'apprentissage. Les enfants deviennent calmes, sereins, volontaires. Ils sont autonomes et ont confiance en eux. Parce que l'on respecte leur activité spontanée individuelle, les enfants respectent naturellement celle des autres. Lorsqu'un enfant lave une table déjà parfaitement propre, nous comprenons qu'il est bien moins intéressé par la finalité que par tout le travail nécessaire à la réalisation de la tâche. En effet, brosser, rincer, essuyer, vider l'eau du pichet dans la bassine sont autant d'actions qui le passionnent véritablement, car elles lui permettent de travailler la précision de ses gestes.
Céline Alvarez, j'aimerais bien que vous nous parliez de l'importance de l'erreur et puis aussi de l'importance de la répétition. Vous écrivez qu'il est important que l'enfant puisse faire des erreurs et puis qu'il recommence, etc. Alors que le système de notation aujourd'hui fait qu'une erreur, c'est terrible.
Eh bien oui, l'erreur, ce n'est pas seulement important, c'est nécessaire. C'est-à-dire que l'être humain est ainsi câblé qu'il a besoin de faire des erreurs pour revoir ses hypothèses internes et s'apercevoir que sa projection sur le monde n'est pas bonne, est erronée, et donc il doit la revoir. Et s'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'apprentissage. Et ça, c'est une des choses les plus claires que nous donnent les sciences cognitives. Un être, un organisme qui ne se trompe pas, n'apprend pas. Il faut que notre connaissance nous soit renvoyée comme fausse par le monde extérieur pour qu'il y ait une surprise. Et c'est cette surprise, donc le constat de ce décalage entre ce que nous croyons savoir et ce qui visiblement apparaît être faux, qui crée l'apprentissage. Il y a un moment de grande activité cérébrale à ce moment-là, et c'est là où l'apprentissage se produit. Donc l'erreur est importante, mais elle est surtout nécessaire. Donc lorsqu'on pénalise, qu'on sanctionne l'erreur, on paralyse tout le processus d'apprentissage. On empêche les enfants d'apprendre. Donc oui, l'erreur est importante et la répétition est aussi également très importante puisque c'est en répétant une activité, un apprentissage plusieurs fois de suite qu'on va consolider et automatiser une connaissance. Donc non seulement il faut arrêter de sanctionner et de poser un jugement négatif sur les erreurs des enfants parce que c'est juste totalement absurde d'un point de vue biologique, et ensuite il faut que nous puissions leur permettre de répéter autant de temps que cela est nécessaire pour que la connaissance puisse s'automatiser et s'ancrer. Et cette répétition n'a pas la même durée pour chaque enfant. Il peut y avoir des enfants qui ont besoin de répéter une fois, deux fois, et puis ça suffit, et d'autres qui vont avoir besoin de répéter beaucoup, voire plusieurs heures, voire plusieurs jours de suite. J'ai vu des enfants là comme ça dans la classe qui reprenaient la même activité plusieurs jours de suite jusqu'à en être libéré, avoir acquis, automatisé une connaissance.
On le voit très bien, je rappelle que vous avez donc un site internet, hein, et on le voit très bien dans les images, les petites vidéos que vous avez faites de votre classe, on voit cette question de la répétition, et ce qui m'a beaucoup étonnée, et vraiment c'était fascinant, c'est de voir combien une petite fille aussi pouvait apprendre la langue française à un enfant qui ne parlait pas français. Donc l'entraide aussi, la répétition aussi à travers l'entraide, qui semble quelque chose de fondamental dans votre démarche pédagogique.
Ah oui, oui. Alors ce n'est pas fondamental dans ma démarche pédagogique, c'est fondamental pour l'apprentissage humain. Nous sommes des êtres éminemment sociaux, et ce que montrent les neurosciences affectives et sociales est fabuleux. Elles montrent elles confirment que nous sommes des êtres sociaux, et elles montrent à quel point tout le développement cognitif, le développement social et moral a lieu lorsque nous sommes reliés à l'autre de manière positive, dans des situations de coopération, d'entraide, d'empathie. Et donc, oui, dans la classe, c'était extrêmement important de pouvoir offrir ça aux enfants, puisque par leurs échanges quotidiens bienveillants, ils faisaient foisonner leurs compétences cognitives, sociales et morales. Donc oui, ce lien positif entre les enfants a été un catalyseur extraordinaire de bien-être, d'apprentissage et pas seulement, j'irai plus loin, je profite de votre question pour rebondir, ça me fait penser à autre chose, c'est que on a parlé d'intelligence plastique, on a parlé d'activité, d'engagement, l'enfant doit être actif, l'enfant doit être motivé. Mais il y a une chose fondamentale qui pour moi est le liant de tout ça, et sans lequel rien ne prend forme et rien n'émerge, c'est l'amour. C'est l'amour, la confiance. Si nous laissons les enfants mener leurs propres activités dans un environnement de grande qualité, qu'ils sont motivés, qu'il y a d'autres enfants d'âge différents, mais qu'ils ne se sentent pas aimés et qu'ils se sentent jugés, ça ne marchera pas. Alors oui, tous ces paramètres sont importants, mais d'abord, ce qu'il faut faire rentrer dans les classes de nos enfants et dans les maisons, c'est de l'amour, de la confiance. Il faut arrêter de juger les enfants. Il faut les aimer, leur faire confiance, les encourager, les soutenir, y croire plus fort qu'eux. Dans la classe, quand un enfant se retrouvait en difficulté, parce que nous avions des enfants avec de grandes difficultés, avec des troubles spécifiques d'apprentissage importants, et quand il commençait à désespérer parce qu'il se fixait des objectifs qu'il n'arrivait pas à atteindre, nous nous asseyions à côté d'eux et nous leur disions « Écoute, tu veux faire ça? C'est ça que tu veux faire ?» Très bien. Eh bien, je vais rester à côté de toi, si tu le veux. Est-ce que c'est ce que tu veux ? En général, il disait oui. Je vais rester à côté de toi. Et jusqu'à ce que tu y arrives, parce que moi, je sais que tu vas y arriver, eh bien, je serai là. Et ne t'inquiète pas, prends ton temps. Tu vas y arriver, il n'y a aucun doute. Vous voyez, ce genre de choses-là, c'est précieux. Ça n'a aucun prix matériel. C'est le fondement. C'est ce qu'il y a de plus important.
C'est l'occasion peut-être aussi de dire merci aussi à déjà tous les enseignants, tous les pédagogues, toutes les institutrices qui font ce travail dans leur propre classe.
Ah oui, ça je tiens à le dire, c'est que ces principes que j'évoque là, qui avaient été pressentis par de nombreux pédagogues, Montessori, Pestalozzi, Steiner, Freinet, Tolstoï et tant d'autres, donc tous ces principes qui avaient été pressentis, sont déjà mis en application dans les classes par de nombreux enseignants, directeurs d'école, assistants maternels, orthophonistes, bref, des professionnels qui sont auprès de nos enfants quotidiennement. Et ce que j'essaie juste de faire là où je suis aujourd'hui, donc en dehors d'une classe, c'est de légitimer les gens qui œuvrent déjà depuis des années dans cette démarche-là par un étayage scientifique.
Alors, il semblerait que sur votre site internet, il y a eu pratiquement 2 millions de connexions, ce qui est énorme. Et vous avez beaucoup d'enseignants qui se connectent ?
Énormément d'enseignants, de parents aussi, mais beaucoup, beaucoup d'enseignants du public. Et on a fait une conférence cette année, en juillet 2016, sur 3 journées où j'expliquais un petit peu quelles activités nous avions mises à disposition des enfants. Et il y avait 750 enseignants du public. Bon, il y avait des parents aussi un petit peu, mais essentiellement des enseignants du public, essentiellement de maternelle, qui étaient là sur leur temps de vacances avec leurs propres deniers pour faire évoluer leurs pratiques et continuer à avancer comme dans la démarche dans laquelle ils se sont déjà engagés. Et alors, c'était incroyable.
Pour vous, c'est un peu une mission de partager cette bonne nouvelle de ces lois naturelles de l'apprentissage ?
Exactement, vous l'avez dit. Moi, j'ai l'impression d'être en mission depuis que j'ai eu les premiers jours de Gennevilliers où j'ai perçu tout ce qui pouvait se révéler quand on arrêtait d'empêcher que ça se révèle. Et je me sens, oui, complètement, il pourra se passer ce qui se passera dans ma vie. Je ne pourrai pas m'arrêter de faire passer ce message, cette bonne nouvelle qui est que nous sous-estimons très largement nos potentiels cognitifs, créatifs, sociaux, parce qu'ils sont sans cesse entravés. Et je me sens en quelque sorte en mission, oui.
Un grand merci, Céline Alvarez, de nous partager votre passion. Donc, je rappelle votre livre, Les lois naturelles de l'enfant aux arènes, et puis bien sûr aussi votre site internet, donc de Céline Alvarez. Et puis à très bientôt dans La vie est un art, car nous avons
avec
hâte
plaisir
de développer encore beaucoup, beaucoup de choses avec vous.
Merci.
À bientôt. Au revoir.
Merci.